Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver ici pour ce temps aussi maintenant d'études de la Bible. Et notre église étudie en ce moment le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament, le troisième livre de la Bible. Et nous avons découvert, nous découvrons ensemble que le grand projet de Dieu, c'est de nous faire habiter dans sa maison, dans sa présence. Comme nous venons de chanter, dans sa maison j'habiterai, je reviendrai vers son temple, tellement de joie dans sa présence. Ça, c'est le grand projet de Dieu. Et imaginez un peu par ce tabernacle dans le désert, c'était la maison de Dieu. Il voulait habiter avec son peuple. Mais comme toute maison, il veut la garder propre. Quand vous allez chez quelqu'un, vous essuyez vos pieds sur le tapis d'entrée, souvent, ou bien en France, on enlève ses chaussures en signe de politesse. Aussi en ce temps de Covid, même on s'est habitué à tous ces protocoles sanitaires de pureté lorsqu'on entre dans un lieu, dans un bâtiment, dans un magasin, dans une maison. Le gel, le masque, un test négatif dans certains cas. Tout cela pour ne pas amener des saletés ou des infections dans la maison qui pourraient pénaliser les autres. Eh bien, cette image, vous pouvez la garder en tête ce matin parce que qui va nous aider à comprendre les chapitres suivants, les chapitres 11 à 15 que nous allons regarder ce matin. C'est des chapitres qui traitent des lois sur la pureté rituelle dans le culte lévitique. Et ces lois vont inculquer ce réflexe parmi le peuple que rien de souillé, rien de sale, rien de mal devrait entrer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alors, nous allons lire, je vais vous lire un échantillon de ces quelques lois. Ce sont des lois un peu particulières, un peu bizarres, mais vous allez voir qu'il y a un sens à tout cela. Donc, on va étudier chapitres 11, 12, 13, 14 et 15. Ce matin, c'est des longs textes, nous allons pas tout lire. Je vais juste vous lire les premiers versets de chaque chapitre pour vous donner une idée de différents types de lois sur la pureté. Donc nous allons commencer maintenant avec le chapitre 11, les premiers versets, les premiers 8 versets de chapitre 11, et puis on fera pareil pour chapitre 12, 13 et 15. Lévitique chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse, à Aaron, et leur dit, « Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. » Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daim qui rumine mais qui a la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, vous ne toucherez pas leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. Donc ça, c'était des lois qui concernent la nourriture pure et impure. Maintenant, chapitre 12, les premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. » Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Maintenant, chapitre 13. Il y a une autre catégorie de loi qui touche la lèpre, les maladies de peau. Verset 1, chapitre 13, l'Éternel parla à Moïse, à Aaron, et dit, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur le peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Et ça continue un peu dans ce genre, pendant deux chapitres, c'est long, sur la lèpre, chapitre 13, tout chapitre 14, et puis enfin chapitre 15, une autre catégorie de pureté et d'impureté. Chapitre 15, l'Éternel parle à Moïse et à Aaron et dit, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée et par la même impure, c'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux, ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il touchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Et on va résumer tout ce que nous venons de lire dans chapitre 15, verset 31, un des derniers versets de cette partie. 15, 31. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Donc vous voyez le grand projet de Dieu, c'est de garder sa maison, garder le tabernacle pur des souillures. Alors ces chapitres-là, je vous ai lu juste un peu, mais ces chapitres-là effectivement font partie des endroits les plus bizarres, les plus étrangers de la Bible. Il y a quelques raisons à cela. Déjà dans la distinction pure et impure, il n'y a pas toujours un lien éthique, un lien moral. Gardons en tête ce matin que impur ne veut pas toujours dire mauvais ou péché en soi. Mais comprendre, c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi une chose est pure, pourquoi une chose est impure. Le saumon est pur, mais les noix de Saint-Jacques, comme j'en ai mangé avec mon collègue batteur et mon collègue pasteur récemment, les noix de Saint-Jacques sont impures. Mais le saumon est pur. Alors, okay, moi j'aime les deux. Alors, pourquoi pur et impur? Donc ça, c'est un problème tout au long de ces lois. Pourquoi pur et impur alors qu'il n'y a pas une distinction morale ou logique? Une autre difficulté, c'est qu'on évoque des sujets qui normalement ne devraient pas sortir d'un cabinet d'un médecin ou d'un gynécologue ou du secret médical. Hein. On parle des choses délicates, privées. Certaines lois aussi semblent humilier la personne malade ou l'écarter de la société, comme quelqu'un qui avait la lèpre. Voilà, et c'était un peu humiliant de devoir faire toutes ces démarches et d'être exclu, déclaré impur à cause d'une maladie. Aujourd'hui, on ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne avec un secret médical. Et puis enfin, une difficulté de ces lois, c'est qu'on peut voir dans ces lois une raison à ne plus prendre au sérieux tout le reste de la Bible. On voit dans la loi de Moïse, la Bible interdit l'adultère, interdit l'homosexualité, mais elle interdit aussi la saucisse de Toulouse. Alors, on dit, voilà, visiblement, la Bible n'a plus d'actualité. Et donc ces lois sur la pureté et l'impureté, c'est un défi pour ceux qui lisent la Bible, comme nous avons vu. Vous avez commencé votre plan de lecture, vous arrivez au Lévitique, et là vous êtes perturbé par tout ça. Mais ce matin, nous allons voir que ces lois qui traitent de la pureté rituelle avaient une richesse, avaient un sens dans le culte lévitique. Elles ne font pas partie de la loi morale, la loi universelle de Dieu. Elles ne régissent plus le peuple de Dieu, mais elles peuvent encore nous apprendre des choses, tout comme elles apprenaient à ce peuple qui était un peu nouvellement constitué au Mont Sinaï pour pouvoir vivre maintenant des années à la suite de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Elles étaient là pour apprendre des grandes vérités spirituelles que nous allons voir ce matin. Alors je propose que ces lois servaient tout d'abord à valoriser la vie, ensuite à préserver le peuple et enfin à symboliser le salut. Voilà ce que nous allons voir ce matin. Ces lois servent à valoriser la vie, à préserver le peuple et à symboliser la vie. Tout d'abord, commençons avec cette question de la vie. Ces lois servaient à célébrer, à valoriser la vie. Ce qui aide le plus à comprendre ces lois, c'est de voir que c'est souvent une question de vie et de mort, ou des différents degrés de vie et de mort. Dieu donne ses lois juste après la mort de Nadab et Abihu, c'est les fils d'Aaron que nous avons étudiés la semaine dernière en chapitre 10. Ils se sont entrés dans la maison de Dieu, mais en méprisant sa sainteté, sa pureté, ils ont apporté du feu étranger, peut-être dans un état d'ivresse, et voilà, ils étaient jugés par la mort. Et c'est leur mort dans le tabernacle, dans la maison de Dieu, qui lance ce sujet sur les choses impures et pures et leur proximité avec Dieu. Vous savez, Dieu est vie tout au long de la Bible. Dieu est vie, il est créateur de vie, Dieu est saint. Et la sainteté est liée à la vie, à cette source de vie, cette énergie. Alors la chose la plus opposée à la vie, la chose la plus opposée à Dieu, c'est la mort ou tout ce qui s'approche de la mort. Et donc ces lois vont surtout mettre une distance entre la vie et la mort. Sur une échelle, mais entre la vie et la mort, pour que le peuple apprenne que Dieu est vie, qu'il est source de vie, donc on va valoriser cette vie et vouloir aller vers cette vie. Et donc, quand vous regardez l'ensemble de ces lois, il y a un classement assez très, très logique, très soutenu au long de ces chapitres. Quand vous regardez l'ensemble de ces lois sur la pureté et l'impureté, elles sont quasiment toutes liées à des degrés de vie et de mort. Donc nous avons lu des échantillons, mais ça c'est les quatre grandes parties. D'abord il y a les lois sur la nourriture, pure et impure, et puis c'est classé entre les animaux, les oiseaux, les poissons et les autres, comme les reptiles. Ensuite il y a les accouchements, et c'est classé entre l'accouchement d'un garçon et l'accouchement d'une fille. Ensuite il y a les lois sur les lèpres. Et là, il y a trois parties, j'ai mis deux, mais il y a les lèpres du corps, c'est les maladies, toutes sortes de maladies, même des brûlures de peau, des plaies qui peuvent s'infecter, tout ça, c'était regroupé dans ce terme lèpre. Il y avait les lèpres du corps, il y avait les lèpres des vêtements, et les lèpres des maisons, ce seraient des moisissures qui pouvaient poser un problème dans la communauté. Et puis enfin, la dernière partie, il s'agit des pertes des liquides corporels, les pertes anormales, maladives, et puis des pertes normales dans le fonctionnement normal de la vie et de la sexualité. Et quand vous regardez tout ça, la manière que Dieu présente ces lois, ce qui rendait impur surtout, c'est plus on s'approchait, plus ça ressemblait, ou plus ça faisait penser à la mort. Par exemple, ce qui rendait surtout impur à la nourriture, c'était toucher un animal mort, ou toucher un cadavre. Voilà, c'est ce qui rend impur. Et je pense que c'est pareil pour vous. Un animal écrasé sur la route, là, vous ne le mettrez pas au milieu de votre salon pour accueillir des invités. Il y a quelque chose de répugnant. Un animal écrasé avec toutes ces mouches infectes, c'est pas joli, c'est pas la vie. C'est pas ce que vous voulez au cœur de votre salon. Et Dieu va inculquer cette même idée. Par exemple, les choses les plus impures dans la nourriture, c'était la catégorie autre, c'était les reptiles, les serpents, mais encore, ces choses font penser à une morsure mortelle ou à le serpent qui, en quelque sorte, a introduit la mort dans le monde, dans le jardin d'Éden. Ou les oiseaux impurs, c'est quasiment tous des charognards, ces oiseaux qui mangent la mort. C'est impressionnant de voir les vautours s'arracher à une carcasse comme ça. Et c'est fascinant, Dieu les a créés, mais il y a quelque chose qui nous répulse. Ça, c'est pour les animaux. Donc, quand vous regardez de plus près, plus un animal est carnivore, plus qu'elle est charognard, plus qu'elle nous fait penser à la mort, plus elle se cache dans les coins sombres, plus elle va être impure et interdite à manger pour les Juifs. Prenons le cas des maladies maintenant, les lèpres, bien sûr. Et comme j'ai dit, ici, on appelle lèpre toutes sortes de maladies et d'infections de la peau. Mais aussi la lèpre, telle qu'elle est souvent connue dans les temps bibliques, avec ce blanchissement, cette pourriture de la peau, elle ressemble même à la mort. La lèpre ressemble à la mort, la manière que le corps se pourrit et change de couleur. Et peut-être vous avez entendu parler, le lèpre qui a été déclaré après les examens, après un temps de quarantaine, tout ça, quand vraiment une lèpre s'est déclarée, voilà ce qu'il devait faire. Chapitre 13, verset 45. Chapitre 13, verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Et il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. ici, ça décrit aussi un deuil, en quelque sorte, les gens qui se, les vêtements déchirés, la tête nue, ces cris, ça ressemble aussi à un deuil, des obsèques, de cette manière de sortir le corps du camp. Donc tout ça rappelle la mort. Et puis la perte des liquides corporels, les liquides de vie, comme le sang, le sperme, ou lors d'un accouchement, toutes ces choses vont être liées à l'impureté rituelle dans le cadre lévitique. Non pas que ces fonctions du corps soient mauvaises, mais dans ce culte, on a déjà vu tout au long du Lévitique, le sang symbolise la vie. Alors une perte de sang symbolise une perte de vie. Et donc ça va encore entrer dans ce cadre de vie et de mort. Et je dirais que l'ensemble de ces lois a pour effet de valoriser la vie, de célébrer la vie. Dieu est la source de vie, et dans sa présence, tout est vie, tout est pur, tout est entier, tout est parfait. Hors question d'introduire la mort, ni même un soupçon de la mort dans sa présence, dans son paradis. Imaginez arriver au paradis, et puis il y a des cimetières partout, il y a des hôpitaux partout, vous serez déçus. Voilà, la mort n'appartient pas à la présence de Dieu. Et donc, il veut apprendre cette vérité, ce réflexe à son peuple. Plus on s'approche de Dieu, plus il fallait être pur, plein de vie, entier, guéri, pour cohabiter avec ce Dieu pur et vie. Puis inversement, on s'approche de Dieu, plus on s'approchait de Dieu, plus il fallait une pureté. Et inversement, les impuretés les plus sévères étaient bannies du camp, dans le désert, loin du tabernacle, dans ce désert qui était aussi un lieu sans vie. On associe le désert à une absence de vie. Et tout ça devient un schéma pour notre vie aussi. Dieu a dû bannir l'homme du jardin d'Éden à cause de la mort. Le péché a introduit la mort. Et donc, du coup, Dieu a dû éloigner, exiler, bannir l'homme de sa maison, du jardin d'Éden. Mais depuis, tout en nous voudrait retrouver la vie, tout en nous voudrait célébrer la vie, voudrait aller vers la vie. Et c'est ce qui donne aussi un sens à notre vie, quand on agit pour la vie. Alors, des fois, c'est tout simple, c'est tout quand vous rangez, quand vous faites le ménage de la maison, et quand, mesdames, les mères, vous soignez, vous gardez une certaine pureté, et vous enseignez aux enfants de célébrer la vie, ne pas aller vers des choses dangereuses, des choses qui pourraient causer des soucis de santé. Autre, ça, oui, c'est normal, c'est une réaction normale de vouloir valoriser la vie. Ou dans nos métiers en général, nous voulons pas pousser les gens vers la mort, mais plutôt vers la vie, le bien-être. Et chaque vocation a un rôle à jouer dans cette manière de valoriser la vie en tant qu'être humain. Et Dieu voulait montrer, encourager son peuple à aller vers la vie et s'éloigner de la mort. Je pense à notre époque, oui, nous avons fait beaucoup de progrès dans l'hygiène, dans l'espérance de vie, et heureusement, on n'a pas pratiqué toutes ces lois. Mais ces lois mettaient le peuple souvent face à la mort et aux horreurs de la mort. Et de notre époque, peut-être notre conception de la mort peut être faussée. Si pour nous la mort c'est juste débrancher une machine, ou si inversement il faut absolument maintenir la machine en marche à tout prix, quelle que soit la qualité de vie d'une personne, parce qu'on ne veut pas voir la réalité de la mort, voilà, nous avons peut-être perdu quelque chose. On oublie peut-être de nos jours que la mort est la conséquence horrible lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Et donc toutes ces lois préparaient le peuple à répondre au grand appel de Moïse. C'était son dernier mot à la fin de la loi, à la fin de la Pentateuque, en Deutéronome chapitre 30. Il va résumer son ministère, il va résumer son appel à tout le peuple. Il va leur dire, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et toutes ces lois préparaient les gens à entendre cet appel, et encore c'est l'appel que nous, l'Église, nous lançons à ce monde. Il y a la vie et la mort, choisissons la vie. Donc ces lois servaient à célébrer la vie, ces lois servaient aussi à préserver le peuple. Dans plusieurs sens du terme, Déjà, ces lois faisaient une séparation entre Israël et les peuples païens autour d'eux, et notamment préserver le peuple des pratiques païennes, les pratiques idolâtres qui étaient partout autour d'eux. Ce peuple venait de passer 400 ans en Égypte, pays très idolâtre avec sa conception de la vie, avec ses pratiques idolâtres, et maintenant ils vont vers Canaan, et pareil, ils vont être entourés par tous ces gens avec différents cultes, différentes conceptions de Dieu, différentes pratiques, et ils vont avoir besoin de protéger leur identité en tant que peuple de Dieu. Ils vont avoir besoin de rester saints, différents du monde autour d'eux. Et donc, ces lois qui imposent une distinction, effectivement, ces lois vont préserver leur identité. Je pense surtout aux lois alimentaires, en particulier, qui vont empêcher le peuple de se mélanger à d'autres peuples. On le sait tous, après la langue, c'est souvent la nourriture qui est la plus grande barrière culturelle, qui empêche des fois que les différentes cultures, les différentes ethnies se mangent, parce que des fois c'est difficile quand on n'a pas la même nourriture. Et encore aujourd'hui, vous voyez l'effet que peuvent avoir des lois alimentaires pour empêcher un peuple de s'intégrer avec d'autres. En tout cas, Dieu a voulu préserver son peuple jusqu'à l'arrivée du Messie, après quoi ces lois alimentaires vont être enlevées, mais il voulait préserver son peuple entouré de tous ces païens, et ces lois sur la pureté et l'impureté agissaient ainsi. Je pense aussi aux impuretés mentionnées en chapitre 15 sur la perte des liquides corporels lors d'un rapport sexuel, par exemple. Il faut savoir que le culte aux idoles et aux dieux païens, Baal, c'était le dieu de la fertilité dans ce pays de Canaan, eh bien, le culte vers ce dieu se pratiquait par des actes sexuels, par cette prostitution rituelle dans le temple, dans les temples et sur les hauts lieux. Mais ces lois pour les juifs, ça, ils vont pas pouvoir faire ça du tout. Le fait qu'il fallait être dans un état pur pour venir au tabernacle, pour faire un culte, ça va préserver le peuple de vouloir imiter ces pratiques païenne débauchée, où on va mélanger le lieu du temple et les actes débauchés, ce qui est une très bonne idée de séparer ces deux choses dans la vie, pour empêcher des abus notamment, et une débauche. Et donc, là encore, ça va marquer Israël. Malheureusement, ils vont pas toujours obéir ces lois, ils vont vouloir imiter les païens, mais ce genre de loi va les préserver de la limitation païenne dans le culte, notamment. Bien sûr, on peut aussi ajouter que ces lois préservaient le peuple sur un plan physique, santé. Il faut dire que c'était à une époque où la médecine était moins avancée, mais il y a beaucoup de bon sens et d'hygiène dans ces lois. Des milliers d'années plus tard, on pratique exactement les mêmes gestes pour gérer le Covid. Qu'est-ce qu'on fait? Le mieux qu'on a trouvé à faire, c'est se laver et mettre en place des barrières, voire des quarantaines. Et bien, c'est exactement ce qu'ils faisaient. C'était assez précis, hein, une quarantaine de 7 jours, si ça allait mieux, si ça allait pire, on prolongeait ou pas, on s'est habitué de nos jours à vivre ces choses, les barrières, les gestes barrières, des masques, tout ça, on trouve un peu l'équivalent dans la manière qu'une personne devait, de se laver. Il y avait une petite barrière entre lui et le reste du peuple jusqu'à ce qu'on était sûr que c'était pur jusqu'au prochain lavage. Donc, voilà, ça préserve le peuple physiquement. Je pense à toutes ces moisissures de vêtements et de maisons. Aujourd'hui, on va fonctionner de la même manière. On va imposer, par exemple, une expertise de maison. Lorsque vous vendez, vous achetez la maison, vous voulez savoir l'état de la maison, on va faire venir un expert qui va examiner les murs, s'il y a des termites, s'il y a d'autres choses. Et là, c'est légal maintenant. Il faut un rapport pour voir l'état de la maison avant de changer de propriété. Donc, des fois, on a l'impression que la Bible est dépassée ou appartient à un passé, mais finalement, ici, la Bible est à des années en avance de sa culture et apporte un bon sens, une propreté, une hygiène de vie qui va préserver le peuple. Ceci dit, parfois, on n'arrive pas toujours à discerner une raison logique, une raison éthique, une raison hygiénique pour telle ou telle loi. Je pense notamment au chapitre 12. Pourquoi en chapitre 12, une femme est impure 30 jours après la naissance d'un garçon et 60 jours après la naissance d'une fille? Ça a troublé plus d'un. Eh bien, je ne sais pas. Dans ces cas, il est utile de faire confiance à Dieu et accepter les distinctions que lui fait dans sa création, qu'il établit dans sa création. Et je crois que c'est encore un des buts de ces lois et qui nous préserve et qui nous rappelle que nous sommes créatures devant un créateur qui, lui, gère son monde. Depuis le début, depuis sa création, Dieu fait des distinctions. Il fait une distinction entre le soleil et la lune. Il fait une distinction entre la terre et la mer. Il fait une distinction entre l'homme et la femme. C'est peut-être une explication pour le chapitre 12. Il fait une distinction entre un jour de travail et un jour de repos. Tout ça depuis le début. Parce que c'est son monde. Et c'est chez lui. Finalement, tout ce monde, c'est chez Dieu. C'est tout ce monde, c'est la maison de Dieu. Et on habite chez lui. Et donc, c'est à lui, tout comme le maître de la maison, c'est à lui seul, qui a le droit de définir ou distinguer entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre pur et impur. Quand vous allez chez quelqu'un, parfois, il faut enlever ses chaussures. Vous êtes content de le faire. D'autres maisons, on n'enlève pas ses chaussures et il n'y a pas de problème. Mais c'est le propriétaire qui donne ses distinctions. Et on fait comme il faudrait quand on est chez quelqu'un d'autre. Ici, dans ce monde, toutes nos vies se passent dans la maison de Dieu. Et donc, il fait des distinctions. Il met des principes, des lois. Et donc, finalement, le cadre lévitique appelé à la foi dans un Dieu qui, lui, sait mieux que nous, qui, lui, va faire des distinctions entre pur et impur. La plupart, on arrive à comprendre. Certains, peut-être, en tout cas, avec tout ce temps, après, on voit pas tout, mais on peut faire confiance à Dieu, qui lui va constamment inculquer à ce peuple cette échelle, cette gamme entre ce qui est très saint, un lieu saint, et puis ce qui s'approche de la mort, et ça va préserver le peuple dans sa conception de Dieu. Enfin, nous allons voir que ces lois servaient aussi à symboliser le salut, donc à valoriser la vie, à préserver le peuple, surtout sur le plan spirituel, le plan idolâtre, et aussi maintenant symboliser le salut. Il y a clairement un élément symbolique dans ces lois. Déjà, on voit ça dans le fait que l'impureté était un état rituel, pas un état de péché. Et j'insiste là-dessus, le mot impur a une connotation peut-être mauvaise ou sale, mais c'était pas en soi un péché. Le péché, c'est quand le peuple, quand on désobéissait à ces lois sur l'impureté, ou on prenait à la légère la sainteté de Dieu, et là, ça devenait désobéissance morale. Mais le simple fait de devenir impur était pas un péché. Donc, il y a déjà un élément symbolique dans ces lois. Par exemple, la lèpre. Tout le monde sait que c'est pas un péché en soi, la maladie. Mais, n'empêche qu'elle devient une image forte du péché dans le reste de la Bible, même dans l'Ancien Testament. Notamment la manière que le péché peut infecter toute une communauté, la manière que le péché peut pourrir notre bien-être, la manière que le péché peut pourrir nos relations, nous séparer des autres, la manière que le péché devient contagieux, comme certaines maladies, certaines affections. Alors le roi David, tout ça, déjà, toujours dans l'Ancien Testament, c'est dans le psaume 51, après son péché, après son adultère, et voilà ce qu'il prie dans le psaume 51, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ne me rejette pas loin de ta face. » Et là, David, il reprend le langage du Lévitique, il reprend les méthodes qu'il devait faire pour purifier le lèpre, notamment avec l'hysope et le sang, et pour ne pas être rejeté loin de la présence de Dieu. Il reprend ce langage du lèpre, de la lèpre, du Lévitique, pour l'appliquer à son cœur, à son péché d'adultère devant Dieu. Donc, eux-mêmes déjà commençaient à voir la nature symbolique de ces lois. Et nous pouvons nous associer à eux. On a tous vécu ça, je pense. Après une faute morale, après un péché, après une vie peut-être, on se dit, oui, je me sens sale, je ne suis pas propre. Je ne suis pas présentable. On me dit de venir à l'église, on me dit de chanter ces cantiques, on me dit de croire en Dieu, mais moi, je vois l'état de mon cœur, je me sens sale. Comment Dieu peut accueillir une personne comme moi? Je comprends très bien que je ne peux pas entrer dans sa maison avec la vie que j'ai vécue ou avec ce qui m'est arrivé cette semaine. Vous savez, le péché, oui, donne un sentiment de culpabilité, ça nous avons étudié dans les dimanches précédentes, qui doit être expié, qui doit être pardonné, retrouver une justice. Mais le péché donne aussi un sentiment de souillure, qui doit être lavé. Et ces deux dimensions du péché, on s'y retrouve. Alors regardez ce verset qui m'est très utile pour comprendre aussi tout cela, les lois du Lévitique. C'est juste avant, c'est en chapitre 10, verset 10. Notamment lorsque la mort entre en quelque sorte dans la présence de Dieu et qui crée une situation dramatique où il faut mettre en place toutes ces lois. Mais Dieu dit en Lévitique 10, 10, c'est facile à s'en souvenir, c'est un des versets clés du Lévitique 10, 10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane et ce qui est impur de ce qui est pur. Voilà le grand projet de Dieu dans le Lévitique. Il veut distinguer ce qui est saint de ce qui est profane et ce qui est impur de ce qui est pur. Donc maintenant, je vais essayer d'expliquer cela. C'est un peu la partie la plus technique ce matin. J'avais peur, mais maintenant, j'ai pas peur parce que on est habitué à plusieurs termes avec le Covid. Hein, tout le monde sait qu'on est positif ou négatif, qu'on est cas contact ou pas contact, qu'on est vacciné ou pas vacciné, qu'on est masqué ou pas masqué. Donc ça, c'est plusieurs états et ils peuvent se mélanger. On peut être positif et vacciné, paraît-il. On peut être négatif et masqué. Donc on peut les mélanger et on sait fonctionner à peu près comme ça pour savoir si on peut entrer dans un lieu ou dans un avion ou traverser une frontière. Et ça va être un peu pareil. Il y a saint et profane et puis il y a pur et impur. Donc voyons comment cela fonctionne. Dieu, ce qui est saint, ça appartient à Dieu. Ça peut être en contact avec le Dieu saint. Tout le reste, c'est profane. Et dans les profanes, il y a pur et impur. Et si on veut être en contact avec le saint, il fallait être pur. Donc, si on était dans un état impur, il fallait se purifier, et après, on pouvait être en contact avec le saint. Ce qui surtout fallait pas mélanger, c'est le saint et l'impur. Donc, on va essayer de comprendre ça. J'ai fait une liste, peut-être ça vous aide, je sais pas. Mais une chose sainte appartenait à Dieu. Par exemple, l'espace saint du tabernacle, ou les personnes saintes comme des prêtres, ou des objets saints comme le mobilier du temple, tout ça, c'est dans l'espace de Dieu, c'est dans l'espace saint, ça touche à Dieu, ça appartient à Dieu. Quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui a été consacré à Dieu. Et tout le reste est profane. Le mot profane, c'est pas mauvais en soi, c'est juste que c'est pas dans cet espace saint. Donc, beaucoup traduisent même plutôt commun. Donc, il y a saint et commun. Une chose profane pouvait être pur ou impur. Ensuite, une chose profane et pure pouvait être sanctifiée, notamment par le sacrifice, où carrément tout le tribut des Lévites était sanctifié, était mis dans l'espace saint. Le tribut de Lévites sortait du commun et ils appartenaient à Dieu. Et puis tout au long, voilà, un sacrifice, un animal du troupeau, c'était pur, et puis on l'amenait au temple, on le sacrifiait, ça appartenait à Dieu. Et en quelque sorte, ça représentait la manière que nos vies peuvent appartenir à Dieu et devenir saintes. Une chose sainte devenait profane au contact d'une chose impure. Et ça, c'est le cas grave. Nadab et Abihu, ils apportent quelque chose d'impur, ce feu étranger, dans la présence d'un Dieu saint. Et là, ou dans l'histoire juive, l'idée d'amener une tête de cochon dans le Saint des Saints, comme a fait ce roi grec, ça c'est l'abomination, lorsqu'on met quelque chose d'impur en présence d'une chose sainte. Une chose pure devenait souillée au contact d'une chose impure. Donc ça, on a vu ces lois, mais souvent, il fallait juste pratiquer la purification et en retrouver un état pur pour ensuite pouvoir se présenter au tabernacle. Et enfin, une chose impure pouvait être purifiée, comme je viens de dire, souvent par l'eau. Des fois, c'était juste un simple geste. Dans la journée, on était impur jusqu'au soir, jusqu'au lavage, et on redevenait pur. Des fois, un peu plus, et c'était le sang qui purifiait, le sang, symbole de vie, qui enlève la mort, l'impureté de la mort. Alors, tout ça, c'était un peu technique, mais c'est comme ça que va fonctionner le culte lévitique et ils vont être marqués par, voilà, si je veux être dans la présence d'un Dieu saint, il faut que je sois pur et je veux jamais mettre quelque chose d'impur dans la présence de ce Dieu saint. Peut-être aussi pour vous aider à comprendre, pensez à une fourchette que vous allez sortir du lave-vaisselle pour mettre la table. Une fourchette peut être sale ou propre et elle peut être sur la table ou dans votre bouche. D'accord? Donc, si vous allez mettre une fourchette dans votre bouche qui est propre. Vous n'allez pas vouloir mettre une fourchette dans votre bouche qui a été déjà utilisée ou qui est impure. Donc, c'est un peu comme le saint et le profane. Profane, c'est sur la table. Saint, c'est dans la bouche. Une fourchette peut être pure ou impure. Et si c'est pure, elle est prête à être mettre dans la bouche. Si elle est impure, vous allez vouloir la laver ou c'était déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Vous allez vouloir surtout la laver avant de la prendre. Et maintenant, Dieu est comme ça. Nos vies devant Dieu, ça nous aide à comprendre le salut et ce que Dieu veut faire de nous. Et Dieu dit qu'il veut nous utiliser. Et le grand miracle du Nouveau Testament, c'est qu'il n'y a plus des espaces saints, il n'y a plus une tribu sainte, il n'y a plus des Lévites, que des Lévites qui sont saints. C'est tout le peuple qui devient saint. Vous êtes tous appelés des saints. Et ça, c'est le miracle. Dieu a fait le nécessaire pour vous sortir d'un monde profane et vous mettre et pour que vous lui apparteniez complètement. Ça, c'est l'œuvre de Jésus, c'est ce que Jésus veut faire dans nos vies. Il fait de nous des saints qui appartiennent de manière permanente à Dieu. Et mais pour cela, il fallait nous purifier. Impurs, nous qui étions le salut du péché, c'était la mort. Donc, et puis même la mort nous a touchés de différentes manières. De ce monde déchu avec ses maladies et ses problèmes. Voilà, nos vies sont souillées en quelque sorte. Mais Jésus a fait le nécessaire pour nous mettre dans sa présence. Jésus est ce que symbolise l'eau et le sang du culte lévitique, par sa parole notamment, qui est souvent comme une eau pure, ou sa vie, par le sang de la croix. Jésus est cette fontaine de vie qui nous lave, qui nous purifie, qui nous guérit, et nous pouvons appartenir à Dieu, nous pouvons être saints, nous pouvons entrer dans sa maison. Pensez, pour terminer, aux vidéos d'envol que nous avons vues. Le nombre de versets dans le Nouveau Testament, le nombre d'histoires dans le Nouveau Testament qui prennent toute leur richesse, comme vous comprenez le Lévitique, est trop grande pour être cité. Mais cette histoire d'envol avec les sacs en papier, je sais pas, c'est un peu profane peut-être, vous allez me dire, mais c'était ainsi. Vous avez vu, Jésus, il touche la femme avec une perte de sang. Elle entre dans le cadre d'une impureté, Lévitique chapitre 15. Et en même temps, il y a ce double miracle, il prend une fille morte par la main. Donc, côte à côte, il va toucher deux choses impures qui, normalement, n'étaient pas censées toucher. Mais le comble, Jésus ne devient pas impur lui-même. Il n'est pas tenu à se laver le soir ou à se priver, à être mis à l'écart. Au contraire, et c'est pareil quand il touche les nombreux lèpres qu'il a guéris dans le Nouveau Testament. Et quand Jésus touche une personne, la personne devient, elle, pure et sainte et entière et guérie. Jésus n'est pas un homme comme un autre. Il est cette fontaine de vie qui vient vers nous pour nous purifier afin que nous lui appartenions. Donc ça, c'est une déjà première manière que toutes ces lois symbolisent le salut. Et Dieu fait de nous des saints en nous purifiant par le sang de Christ. Une autre dimension du salut, une dimension où nous sommes déjà saints, tout enfant de Dieu est saint l'instant qu'il place sa confiance en Jésus-Christ. Une autre dimension du salut, c'est qu'il veut nous sanctifier. Et maintenant que nous sommes saints, nous voulons vivre comme tels. Nous avons cette motivation maintenant à ne pas toucher ce qui va profaner nos vies, ce qui est péché, qui va profaner le temple que nous sommes. Nicolas nous a lu, vous êtes le temple de Dieu, donc ne touchez rien de souillé, c'est-à-dire le péché. Je trouve intéressant que ces lois touchaient à une grande partie du quotidien. La nourriture, le corps, la santé, la sexualité, l'habillement, le logement. C'est-à-dire, il fallait y penser tous les jours, toute la journée. J'ai entendu parler d'un prof de fac qui enseigne ce cours, donc c'est un cours soutenu, dans une fac de théologie, et il dit, cette semaine, votre devoir, c'est d'obéir au mieux que vous pouvez le Lévitique. Pas pour vous donc les sacrifices de sang, tout ça, non, mais juste pour goûter à la vie juive de l'époque, essayez de mettre en place tout le Lévitique au mieux que vous pouvez. Et les étudiants, à la fin d'une semaine, ils ont dit, oh là là, c'est une casse-tête. Il faut, quand on s'habille, quand on mange, quand on touche des choses, quand on sort, voilà, il faut penser tout le temps, est-ce que je suis, est-ce que ça me souille ou ça va? C'est constant. Eh bien, ces lois ne régissent plus les chrétiens. Elles étaient symboliques, elles étaient provisoires. Mais une chose est certaine, Dieu nous invite à la pureté, à la sainteté dans tous ces domaines. La nourriture, le corps, la santé, la sexualité, l'habillement, le logement, toutes ces choses, nous pouvons vivre à la gloire de Dieu et rappeler qu'il est avec nous, que nos vies doivent être saintes. Et puis, une dimension finale du salut, dont toutes ces lois symbolisent, c'est que nous vivons dans l'espérance d'un monde sans mort, sans mal, sans maladie, sans péché. Et cette destinée fait écho dans nos cœurs, dans le cœur de tout être humain, cet appel d'aller vers la vie. Un jour, Dieu va purifier, va restaurer un nouveau monde sans maladie, sans mort. C'est nous vivons dans cette espérance. Et comment ne pas se mettre en route vers la maison de Dieu, vers la présence de Dieu. Dieu vous appelle à ça, Dieu nous offre ça, un monde pur, un monde parfait, nous-mêmes des cœurs purs et parfaits. Comment ne pas vouloir prendre cette offre et choisir la vie comme Moïse invite le peuple. J'ai mis devant vous la vie et la mort, choisis la vie. C'est ce que Dieu nous offre encore ce matin, que nous puissions choisir la vie et cette vie qu'elle puisse rayonner et remplir nos vies de pureté et de sainteté. Nous terminons dans la prière.